France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec le docteur Nasio.
Chère auditrice, cher auditeur, bonjour. Comme chaque mois, je suis ravi de vous retrouver sur Inter. Vous me connaissez maintenant. Je cherche à être un psychanalyste proche de mes patients. Proche du cœur, mais aussi proche dans l'espace. Quand l'analysant est en face de moi, je m'avance au bord du fauteuil pour me rendre plus présent. Et s'il est allongé, je place mon fauteuil non pas derrière le divan comme on le fait d'habitude, mais sur le côté, tout près du divan, à hauteur de la tête, pour renforcer ainsi l'intimité de mon écoute. Contrairement à la caricature de l'analyste distant et muet, je conçois la présence du psychanalyste comme une présence pleine, active, toute focalisée sur la personne du patient. C'est dans cet esprit de proximité avec mes patients que je voudrais vous montrer aujourd'hui trois manières singulières que j'ai d'intervenir dans les séances. Pour mieux vous faire sentir l'impact de mes interventions, je vous demande d'entrer dans mon cabinet et d'observer comment j'agis lors d'une séance avec Gilles, d'une autre avec Loïc et d'une troisième avec Omar. Après ce récit, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté cet épisode dans sa version podcast. N'oubliez pas que les prochains épisodes de l'inconscient sont déjà accessibles en podcast et que vous pouvez d'ores et déjà les écouter et nous adresser vos questions par note vocale sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Nous vous répondrons sur cette antenne au cours des prochaines semaines.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Bien, je vous ai parlé de mes interventions, mais j'aurais dû être plus précis et utiliser le terme d'interprétation. En effet, les trois interventions que vous allez découvrir sont à proprement parler des interprétations. Mais qu'est-ce qu'une interprétation ? Une interprétation est une intervention du psychanalyste qui révèle au patient l'inconscient caché qui le fait souffrir. Comme par exemple, j'interprète un rêve, une parole ou un comportement de mon patient, je dévoile l'inconscient qui agit derrière ce rêve, cette parole ou ce comportement. J'ajoute qu'une interprétation provoque souvent chez les patients qui la reçoivent un silence ému, ou bien suscite une parole d'acquiescement telle que « c'est ça, c'est exactement ça », parole qui exprime la satisfaction d'avoir été compris. Vous le verrez en direct lorsque je vous donnerai les exemples de Gilles, de Loïc et d'Omar. Je vais donc vous présenter trois manières singulières que j'ai d'interpréter au cours d'une cure. J'ai donné un nom à chacune d'elles. La première, je l'ai appelée l'interprétation allégorique. Je l'appelle allégorique parce que je dévoile l'inconscient en racontant à mon patient une allégorie de son malheur. Ensuite, nous avons l'interprétation mimée. Je l'appelle mimée parce que je dévoile l'inconscient en parlant et en mimant une scène imaginaire, la scène qui est à l'origine du malheur du patient. Mon interprétation est donc une intervention mimée. Enfin, nous avons la troisième modalité d'interprétation que j'ai appelée, d'un nom un peu savant, la prosopopée interprétative. La prosopopée est une figure de rhétorique qui consiste à parler à la place d'une personne absente. Par exemple, vous le verrez avec Omar, je parle à la place de sa maman, comme si elle était avec nous dans la séance. Ces trois variantes de l'interprétation se sont imposées à moi lorsque je me suis aperçu, au fil des années, qu'elles touchaient le patient et souvent l'amenaient à porter un regard nouveau sur lui-même. Venons-en donc au premier exemple, celui de Gilles, à qui j'ai adressé une interprétation allégorique. Je vous rappelle brièvement l'histoire de ces patients à qui j'ai déjà consacré un podcast intitulé « L'homme en noir ». Gilles est un jeune homme, triste et angoissé. Il vit seul, fréquente peu d'amis et n'a pas de travail malgré ses nombreux diplômes. À l'âge de 6 ans, il perd tragiquement sa mère dans un accident de voiture. Et à cette tragédie s'ajoutera le mensonge du père qui lui fera croire que sa maman est partie en voyage. Dès lors, le petit garçon vivra l'absence de sa mère comme un abandon cruel. Depuis ce drame, Gilles n'a jamais réussi à accepter que sa mère soit morte et il garde toujours en lui la douleur insondable d'avoir été abandonné. Après 2 ans d'analyse, au cours d'une séance, j'entends mon patient commencer une phrase en me disant « Depuis que ma mère est partie, sans trop comprendre, je me sens happé par ces mots et me surprends à imaginer une histoire que je raconte à Gilles. Voici ce que je lui ai dit. Vous venez de prononcer une phrase « Depuis que ma mère est partie ». Et en vous écoutant, m'apparaît l'image d'une mère qui fuit sa maison en ouvrant précipitamment la grille. Un petit garçon de 6 ans veut partir avec elle. Comme s'il savait que sa mère s'en allait pour toujours, l'enfant lui crie « Attends-moi, maman, attends-moi, je viens avec toi !» Et la mère, sans se retourner, de lui répondre « Non, 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 tu restes, tu peux pas venir !» Malgré les supplications de l'enfant, la mère s'en va et le petit garçon court derrière. La mère court et lui court derrière. Elle court et il la suit, infatigable, toujours en courant, attaché à ses pas. Ainsi vont mère et enfant, l'un derrière l'autre, sans jamais se rejoindre. Et comme cela, depuis des années et des années, dans une poursuite sans répit. Jusqu'au jour où l'enfant voit s'éloigner la silhouette de sa mère qui finit par disparaître à l'horizon. À bout de souffle, Le garçon arrête alors sa course et renonce finalement à rejoindre sa mère. Épuisé, il s'assied sur le bord du chemin, reprend haleine et soudain, en observant ses mains et ses jambes, il découvre étonné qu'il n'est plus un enfant, qu'il a grandi et qu'il est devenu un homme. Qu'il a aussi mûri parce qu'il ne vibre ni ne rêve plus comme un petit garçon. Pendant que je parlais, le patient écoutait dans un silence dense, entièrement suspendu à ma voix. Et à la fin de mon intervention, j'entendis son émotion et des sanglots retenus. Après un moment, je m'adresse plus directement au patient et lui dis « Vous voyez, Gilles, cet arrêt au bord du chemin où vous êtes surpris de ne plus être un enfant mais un homme, c'est cette métamorphose que nous sommes en train de réussir ensemble. C'est cela l'analyse. » Voilà l'allégorie, l'interprétation allégorique que j'ai adressée à mon patient. J'ai fait vivre à Gilles l'histoire d'un petit garçon qui veut rejoindre sa mère et qui finit par accepter qu'elle s'en aille pour toujours. L'émotion et les sanglots qui ont envahi Gilles après mon récit m'ont montré qu'il avait compris avec douleur que lui aussi devait arrêter sa course et accepter que sa mère soit morte. Grâce à mon interprétation allégorique, Gilles a accompli en une séance le saut qu'il n'avait pas pu accomplir en 20 ans. Je vous précise que l'analyse de ces patients s'est arrêtée plusieurs mois après cette séance cruciale. Pendant cette dernière période, Gilles a appris peu à peu à vivre avec l'absence de sa mère disparue, l'aimer dans sa mémoire et s'ouvrir au monde.
France Inter, l'inconscient. Cette semaine avec le docteur Nasio.
Venons-en maintenant à la deuxième variante de l'interprétation mimée. Ici, non seulement je parle, mais en plus je m'élève du fauteuil et en m'adressant au patient, je mime l'attitude qu'il adopte au moment où il vit son symptôme. Je pense ici à Loïc, un jeune homme obsessionnel qui, entre autres troubles compulsifs, avait l'habitude de casser les poignées des fenêtres à force de vouloir s'assurer qu'il les avait parfaitement fermées. Si hermétiquement fermées qu'aucun intrus ne pourrait pénétrer dans la maison. Je me souviens nettement de cette séance. Loïc est assis en face de moi et il me raconte en détail son rituel du soir. « Je vais à la fenêtre du salon, me dit-il, et je la ferme tellement de fois que je finis souvent par casser la poignée. Étant sûr que la fenêtre est bien verrouillée, je peux aller tranquillement me coucher et me masturber. « Et vous faites ce rituel tous les soirs ?» je lui demande. « Ah oui, » me répond-il, « c'est systématique. Je bloque la fenêtre, je me couche, et je me masturbe pour m'endormir d'un sommeil profond. » Ce n'est pas tant le rituel obsessionnel de ce jeune patient que je voudrais vous montrer, mais la manière dont j'interviens comme psychanalyste. Toujours en dialoguant avec Loïc et intrigué par la façon dont il casse les poignets, je lui pose la question « Mais comment faites-vous pour les tourner si fort au point de les casser ?» « Je ne sais pas, » me répond-il. C'est alors que, pour mieux comprendre, l'idée me vient de mimer le geste de fermer la fenêtre. Spontanément, je m'élève du fauteuil, me dirige vers l'un des tableaux accrochés au mur et je me place face au tableau comme si j'étais devant une fenêtre. Imaginez la scène un instant. Je suis debout, face au tableau, et Loïc, toujours assis dans son fauteuil, me regarde. J'étends alors mon bras vers le tableau, c'est-à-dire vers la fenêtre fictive, et je fais le geste de tourner une poignée virtuelle et lui demande « Vous tournez la poignée et vous la fermez plusieurs fois jusqu'à la casser. C'est bien ça. » Et lui, très attentif à ma démonstration, de me répondre « Non, ce n'est pas du tout comme ça. » Surpris, je lui rétorque « Comment ? Ce n'est pas comme ça ? Comment faites-vous donc ?» Il m'explique alors que mon geste de la main correspond bien à ce qu'il fait, mais que lui, il ne se place jamais face à la fenêtre. Pour la fermer, il se met toujours des côtés. Ne comprenant pas, je l'invite à venir me montrer comment il s'y prend. Il me rejoint alors devant le tableau et j'insiste. « Pourquoi vous vous mettez de côté ? C'est très inconfortable pour manipuler une poignée. » Il me répond aussitôt. « Parce que je ne tourne jamais le dos à personne. » J'ai peur d'être poignardé par derrière. Déconcerté, je reprends ces mots « poignardé par derrière ». Mais comment pourriez-vous être poignardé par derrière puisque, ayant fermé les fenêtres, personne n'a pu entrer dans la maison ? Vous êtes seul avec votre mère qui dort à l'étage. De qui auriez-vous peur ? Il reste silencieux. Et je comprends, sans mot dire, que sa mère, à laquelle il est si soumis, est pour lui, dans son fantasme, un redoutable assassin. À ce moment, la seule parole qui m'est venue et que je lui ai adressée avec beaucoup de tact fut « Je ne vois personne d'autre que votre mère qui pourrait vous attaquer. » « C'est vrai, me dit-il. Parfois, le soir, quand j'éteins la lumière, je sens dans le noir la présence de ma mère et j'ai très peur. » Voilà, je voulais vous donner l'exemple d'une interprétation mimée. Si je ne m'étais pas levé de mon fauteuil pour mimer le geste obsessionnel de Loïc, je n'aurais jamais pu découvrir que sa mère, si adorée dans la vie, était dans son fantasme un monstre redoutable armé d'un poignard. En mimant un trouble obsessionnel, je fais surgir sans le vouloir le fantasme inconscient sous-jacent au trouble. Indiscutablement, mon intervention mimée a été une interprétation psychanalytique efficace parce qu'elle nous a révélé à Loïc et aussi à moi-même un inconscient terrifiant. Loïc a terminé sa cure quelque temps plus tard en étant soulagé d'une névrose pourtant grave.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Passons maintenant à la prosopopée interprétative. Avant tout, qu'est-ce qu'une prosopopée ? Comme je vous l'ai dit au début, la prosopopée signifie parler à la place d'une personne absente avec les mots qu'elle aurait pu dire. Par exemple, je parle à la place du père d'une patiente comme s'il était avec nous dans la séance. Dans mon travail, il m'arrive très souvent d'intervenir de cette façon et réussir à faire surgir l'inconscient du patient. Je voudrais vous donner un exemple de ce type d'interprétation en vous racontant une séance avec Omar, un patient que j'ai reçu il y a quelques années déjà. Omar est un jeune adulte de 21 ans, phobique et angoissé, qui passe ses journées devant son ordinateur en fumant du cannabis. Au début d'une séance où il se montre très bavard, il me remercie et me dit « Quand lundi dernier, vous avez imaginé ma mère comme si elle était assise là, sur les tabourets, et que vous avez inventé un dialogue entre vous deux, ça m'a fait un choc. En quittant la séance, j'étais très remué et à la fois soulagé. Je me souviens parfaitement de vos paroles. Vous avez demandé à ma mère imaginaire « Dites-moi, madame, comment était Omar bébé ?» Et vous avez répondu comme si vous étiez elle. « Vous savez, docteur, j'étais toute ma vie une femme très angoissée et je crains d'avoir transmis l'angoisse à mon fils. » Et vous avez ajouté, toujours en jouant le rôle de ma mère, « Quand Omar était petit, il se blottissait souvent contre moi. Et je pense que plus il se blottissait, plus il s'imprégnait de mon angoisse. Parfois, il me regardait avec ses grands yeux craintifs. Je m'inquiétais et me disais qu'il risquait d'être un jour aussi angoissé que moi. » Voilà la prosopopée dialoguée que j'avais adressée à Omar et que Omar, tout troublé, m'a restituée avec une étonnante honnêteté. À vrai dire, ce dialogue imaginaire entre sa mère et moi m'est venu à l'esprit pendant que j'écoutais Omar me parler de sa difficulté à affronter la vie. En l'écoutant, je me suis surpris à imaginer une scène où Omar, petit enfant, se levait dans les bras d'une mère anxieuse, trop caressante et possessive. C'est à ce moment précisément que j'ai lui adressé ma prosopopée interprétative. En lui proposant cette interprétation, j'ai voulu qu'Omar comprenne que l'angoisse qui l'empêche aujourd'hui d'aimer et de travailler lui était en partie transmise par sa mère, elle-même angoissée.
Maman, ma petite maman chérie.
T'aimes ma petite maman.
Je me disais que si Omar arrivait à penser que son angoisse était le prolongement de celle de sa mère, il serait moins angoissé et plus léger pour agir.
Ça va mieux, maman.
Le fait de savoir d'où vient notre angoisse allège souvent l'angoisse.
Allez, il faut que je garde mon calme.
Sachez que chaque fois que je reçois un jeune homme ou une jeune fille angoissée, je pense aussitôt à l'angoisse que leur aurait transmis l'un ou l'autre des parents. Avant de terminer notre récit, je voudrais répondre à une question que probablement, cher auditeur, vous vous êtes posée. Vous pourriez me demander quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un psychanalyste intervienne, comme nous l'avons vu, et fasse surgir l'inconscient de son patient. Je vous dirai qu'il faut deux conditions essentielles pour qu'un psychanalyste agisse de manière efficace. D'abord, être bien informé de la vie de son patient. Et ensuite, être en empathie avec lui. Je dis être en empathie avec lui parce que pour qu'un psychanalyste adresse une parole efficace à son patient, il faut d'abord qu'il se glisse dans la peau du patient, ressente ce qu'il ressent et anticipe sa réaction. C'est cela l'empathie. J'y reviendrai dans un instant. Mais j'insiste, nous avons donc deux conditions pour agir efficacement. L'information et l'empathie. Concernant l'information, il est indispensable que le psychanalyste connaisse bien les événements heureux et malheureux de l'histoire du patient. Parmi les événements malheureux, il doit identifier les atteintes physiques et les blessures affectives que le patient a subies durant son enfance et son adolescence. Je pense en particulier aux 4 traumatismes infantiles les plus fréquents qui sont à l'origine des névroses des nombreux patients adultes que je reçois dans ma consultation. Ces 4 traumatismes sont l'abandon, la maltraitance, l'abus sexuel et parfois même une tendresse maternelle si excessive et excitante qu'elle peut devenir traumatique pour un enfant. Ici, je vous entends me poser la question « Mais docteur, comment pouvez-vous dire qu'une tendresse, synonyme de douceur, puisse faire mal à un enfant ?» La réponse est qu'un enfant, être immature, n'est pas en mesure d'intégrer neurologiquement et affectivement l'impact d'une excitation trop forte provoquée par les caresses trop sensuelles d'une mère, par exemple, trop anxieuse. Cette digression étant faite, venons-en maintenant à la deuxième condition pour qu'un psychanalyste agisse de manière efficace, entrer en empathie avec son patient. Qu'est-ce que l'empathie ? L'empathie, c'est la faculté que nous avons tous de nous mettre à la place d'un autre et de ressentir ce qu'il ressent. Or, le psychanalyste se sert de cette faculté pour ressentir l'émotion malade que ressent son patient et ainsi savoir ce qu'il faut lui dire et à quel moment le lui dire pour le soulager. Depuis tant d'années que je pratique l'empathie, je me suis aperçu que tout au long d'une cure, j'opère avec mon patient une triple empathie. Je dis triple empathie car je peux entrer en empathie à 3 niveaux différents du ressenti du patient. Être en empathie avec le ressenti dont il est conscient, être en empathie avec le ressenti dont il n'est pas conscient, le patient vit une émotion inconsciente mais il ne la ressent pas. Et puis, 3e ressenti, être en empathie avec le ressenti éprouvé non pas par le patient lui-même, mais par la personne qui compte pour lui. Je m'explique en prenant l'exemple d'Omar. Je suis entré en empathie avec Omar en vivant l'émotion que vit un jeune adulte addict au cannabis. Ça, c'est l'émotion dont il est conscient. Ensuite, je suis entré en empathie avec Omar en vivant l'émotion qu'il a pu vivre en tant qu'Omar bébé submergé par la tendresse maternelle. Émotion dont Omar n'est pas conscient. Et enfin, j'étais en empathie avec la maman d'Omar, avec la mère, en vivant sa gêne d'avoir transmis l'angoisse à son fils. Si je devais résumer les 3 empathies que j'ai vues avec un patient, je lui dirais « Quand je suis devant vous, je vis ce que vous vivez. Quand je me concentre intérieurement, je vis ce que vous vivez sans que vous sachiez que vous le vivez. Et quand je me projette au-delà de vous, je vis ce que vit la personne qui compte le plus pour vous. Vous comprenez maintenant que l'information et l'empathie sont les conditions nécessaires pour qu'un psychanalyste puisse opérer l'interprétation allégorique, l'interprétation mimée et la prosopopée interprétative. Pour conclure cet épisode, je voudrais vous dire un dernier mot sur mon métier d'analyste. Chaque fois que je donne un rendez-vous à un patient, chaque fois que j'avance une interprétation comme vous m'avez vu le faire, chaque fois que j'écris les premières lignes d'un récit comme celui d'aujourd'hui, j'ai la volonté de persévérer dans mon être, de continuer à être, de vouloir exister le plus possible et développer au maximum ma capacité d'inventer. Cette poussée vers l'avant, ce désir de persévérer dans ce que je suis pour être mieux que je ne suis, cette volonté renouvelée chaque jour est mon idéal le plus cher. Aussi, je vous dirai que l'idéal qui me guide n'est pas tant de réussir que de persévérer, d'avoir la force d'accomplir ce que je dois accomplir. Assurément, l'effort est plus précieux que l'œuvre à laquelle il aboutit, car dans l'effort, je savoure la joie d'aller de l'avant, de vaincre les résistances du quotidien et d'exister pleinement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ma manière de travailler.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec le docteur Nasio.
Je répondrai dans un instant aux questions que m'ont adressées les auditeurs qui ont déjà écouté ce récit en podcast. Les prochains épisodes sont déjà disponibles sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous adresser vos questions sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Mais pour l'instant, nous écoutons des Velvet Underground.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but don't let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Your mirror,
C'est à vous maintenant de poser vos questions. Je vous écoute.
Bonjour docteur Nasio et merci beaucoup pour votre émission passionnante et généreuse. Je me présente donc, je suis Nathalie de Paris et j'ai moi-même été en analyse pendant de nombreuses années. J'ai terminé, mais je dénoue encore des fils par mes recherches personnelles. Vous avez parlé de la transmission de l'angoisse d'un des parents et cela m'a interpellée. Je me questionne aussi concernant l'approche transgénérationnelle et j'aimerais savoir ce que vous pensez à ce sujet. Et sinon, j'ai une question subsidiaire qui m'intéresse en ce moment. Pensez-vous que nous puissions avoir une action thérapeutique sur nos amis ? Je vous remercie chaudement pour vos réponses.
Merci Nathalie de votre question. Elle est très importante pour moi parce que vous parlez de la transmission. J'avais parlé de la transmission de l'angoisse. Et il m'est arrivé, au cours de 30 dernières années, que j'ai dû constater qu'il y avait différentes pathologies qui se transmettaient très nettement des parents à enfants. Une de ces pathologies, c'est l'angoisse, effectivement. En particulier, la mère angoissée qui transmet son angoisse à la fille angoissée. Mais il n'y a pas que l'angoisse, il y a aussi la colère. Et je peux vous dire, il y a d'autres problèmes que nous transmettons, nous les parents. Par exemple, l'énurésie. L'énurésie, c'est faire pipi au lit. Ça veut dire que il y a une transmission, non seulement de tout ce qui est bien en nous, de tout ce qui est bon en nous, nous transmettons aussi ce qui est problématique en nous. Ça fait partie de la vie, de la relation des parents aux enfants. Nous transmettons à nos enfants ce dont nous souffrons et ce dont nous sommes heureux aussi. Vous savez, mon idée, ce que nous transmettons à nos enfants, surtout ce que nous sommes, plus que ce que nous disons. Nous, les parents, nous passons beaucoup de temps à dire aux enfants, à expliquer aux enfants, à éduquer nos enfants. Mais la vraie transmission, c'est notre être, notre comportement, ce que nous ressentons. Les enfants sont d'une perspicacité incroyable. Ils perçoivent tout de suite ce que nous ressentons et ils nous copient. Voilà. Et alors, concernant la question sur l'action thérapeutique sur nos amis, je dois vous dire que non, vous n'avez pas à avoir d'action thérapeutique avec vos amis. La meilleure chose, c'est d'être vous-même, d'être ami, d'être solidaire et proche de lui lorsqu'il traverse un mauvais moment. Ce qui compte, c'est votre présence, même si elle est silencieuse. Mais avec émotion, c'est un silence ému qui doit l'accompagner.
Bonjour, docteur Nasio. J'avais une question par rapport à la troisième empathie, celle qui vous fait ressentir l'éprouvé de la personne qui compte le plus pour le patient. Comment faites-vous pour entrer en empathie quand ce proche, précisément, est à l'origine des principaux traumatismes de votre patient, comme un abandon ou un abus sexuel? Comment faites-vous pour ne pas être dans le jugement? Merci pour votre réponse.
Merci de votre question. Eh bien, madame me pose la question de comment je réagis lorsque mon patient me parle de ses proches et si je ne juge pas ses proches. Eh bien, vous savez, je suis convaincu que la ronde des êtres qui gravitent et qui ont gravité autour de nous dans notre vie, des personnes bonnes ou mauvaises, des proches ou des amis, eh bien, tous ces gens ne sont pas là par hasard. Les êtres qui nous entourent sont des êtres que nous avons choisis. Je dirais que notre inconscient a choisi. Eh bien, tout cela pour vous dire que lorsqu'un patient aime ou est l'un de ses proches, il aime ou est une partie de lui-même. Donc, je ne porte pas de jugement. Si je juge quelqu'un, ça voudrait dire que je suis affecté personnellement. Or, dans mon métier, je dois rester serein au service de mon patient. Donc, je ne juge jamais.
Bonjour docteur Nasio, merci pour votre émission. En écoutant l'histoire de Gilles, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Peut-être que cela faisait écho à une blessure d'abandon. Et je me suis demandé, en tant que thérapeute, utilisant l'empathie, comment fait-on pour ne pas être bouleversé par le récit de ses patients ? Est-ce qu'il faut avoir visité toutes ces névroses avant de prendre cette place de thérapeute ? Merci.
Merci pour cette question. Quand vous me demandez est-ce qu'il faut avoir visité tous ces névroses avant de prendre cette place de thérapeute, non, il n'y a pas besoin de visiter toutes les névroses. Il faut pratiquer. Je crois, madame, que vous êtes probablement jeune et que vous avez été bouleversée par le récit des patients que vous recevez parce que vous n'avez pas encore acquis ce que pour moi, c'est l'art essentiel d'un thérapeute, c'est la dissociation. Dissociation veut dire être très sensible, écouter l'autre avec toute notre sensibilité humaine et en même temps rester un professionnel qui réfléchit et qui sait que sa mission est d'aider son patient.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Nous poursuivons avec vos questions. Je vous écoute.
Bonjour, je voudrais savoir quel niveau de preuve on a de l'existence de l'inconscient tel que décrit par les psychanalystes. À ma connaissance, c'est quelque chose qui a été théorisé par Freud, mais certains opposants à la psychanalyse reprochent aux grandes théories psychanalytiques d'être en dehors du champ des sciences parce qu'elles ne peuvent pas être réfutées. Et du coup, je voudrais savoir, est-ce que c'est le cas de l'inconscient ? Est-ce que l'inconscient est une hypothèse irréfutable, donc non testable scientifiquement ? Ou bien est-ce qu'au contraire, on pourrait mettre des protocoles expérimentaux en place pour prouver son inexistence ou pas ? Et est-ce que ces protocoles ont été mis en place ? Et enfin, est-ce que les recherches actuelles en neurosciences qui étudient les fonctionnements inconscients à l'intérieur du cerveau n'invalident pas l'hypothèse de l'existence d'un inconscient ? Voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci.
Merci Pascal, c'est une question qu'on me pose souvent. Et ma réponse c'est que pour les psychanalystes, pour l'inconscient, c'est pas dans un laboratoire de recherche. Je peux vous dire que l'inconscient est là. Oui, d'accord, ce n'est pas soumis au protocole scientifique. C'est très intéressant. Aujourd'hui, beaucoup d'avances dans les neurosciences confirment, c'est extraordinaire, confirment pleinement des hypothèses que la psychanalyse avait avancées sans pour autant pouvoir les justifier scientifiquement. Par exemple, Freud, en 1895, Freud avance un texte qui est complètement innovateur à l'époque, eh bien, il avance l'idée des neurones miroirs. Eh bien, voilà-t-il que la neuroscience d'aujourd'hui parle des neurones miroirs. Je veux dire, il y a beaucoup de propositions de la psychanalyse qui sont effectivement confirmées aujourd'hui avec des protocoles scientifiques par la neuroscience. Mais je voudrais vous faire quatre remarques. Première remarque, il n'est pas besoin des sciences pour constater un fait naturel chez tous les humains. Quel est ce fait ? Nous avons des sentiments, nous prenons des décisions et nous réalisons des actes sans aucune intention délibérée et sans savoir pourquoi nous agissons. C'est là qu'est née l'idée d'inconscient. Idée qui est née bien avant Freud, dans la pensée de nombreux philosophes. Vous savez, l'inconscient, c'est déjà chez Leibniz, par exemple, bien avant Freud. Donc, première idée, c'est que le mot inconscient sert pour expliquer les actions, les manifestations humaines qui se produisent sans aucune intention volontaire ni intentionnelle. Deuxième remarque, l'inconscient, je le retrouve tous les jours. Parce que tous les jours, je constate que les comportements actuels d'une personne, que ce soit des comportements malades ou des comportements sains, ces comportements sont la conséquence des événements passés survenus dans l'enfance ou à l'adolescence. Ces événements anciens, parfois inoubliables, parfois insignifiants, parfois oubliés, c'est l'inconscient. C'est une manière de le définir. Troisième remarque. Parmi tous les comportements d'une vie, nous avons deux manières d'aborder la vie, les autres et nous-mêmes. Soit nous nous attachons à ce que nous aimons, que ce soit une personne, un travail, une maison. Soit nous nous séparons de ce qui nous est désagréable et ne nous convient plus. Soit nous nous attachons, soit nous nous détachons. Eh bien, l'inconscient est la force qui est en nous et qui détermine nos choix d'union ou de séparation. Quatrième remarque, et avec ça je finis de vous répondre. Ma quatrième remarque est pratique. Quand j'explique à mon patient d'où vient son comportement, que ce soit un comportement malade ou pas, je réfléchis en appliquant l'idée de l'inconscient. J'ai fait 4 pas. 1. J'essaye de voir s'il y a un traumatisme dans son histoire infantile ou de la jeunesse. 2. J'essaye de trouver la trace que ces traumatismes ont laissée dans le cerveau, c'est-à-dire une scène enfantine que nous appelons fantasme. Ça peut être une scène d'abandon, une scène de maltraitance ou une scène de séduction. Je dis bien, c'est une scène qui est comme une empreinte qui a laissé le traumatisme. 3. J'essaye de trouver les sentiments qui expriment ce fantasme. C'est-à-dire que cette scène, ce fantasme, s'exprime par des sentiments. Et enfin, 4e point dans mon raisonnement quand je suis devant un patient et j'applique l'inconscient, c'est que je trouve aussi le fantasme, la scène qui, rappelez-vous, c'est le souvenir du traumatisme, c'est l'empreinte du traumatisme. Eh bien, cette scène, c'est ce qui est sous-jacent aux symptômes. Par exemple, l'expérience m'a montré, quand vous êtes devant un patient avec des TOC, c'est-à-dire un patient obsessionnel, eh bien, il y a, en sous-jacent au TOC, il y a une scène d'agressivité. Il faut toujours chercher l'agressivité, soit que lui a été agressif, soit qu'on a été agressif avec lui.
Bonjour, je suis psychologue clinicienne depuis plus de 10 ans et depuis 2 ans je travaille avec des patients sourds dont la langue maternelle est la langue des signes française. Votre podcast sur l'interprétation, de par sa figuration, sa narration, sa représentation concrète, résonne particulièrement avec le travail de psychothérapie que je mène avec les interprètes dans cette langue singulière. Ma question est la suivante. Lorsqu'une interprétation est refusée par la négation ou banalisée par le patient, est-ce parce que l'analyste se trompe ou bien que le moment dans la thérapie est mal choisi? Quand bien même, il y a par la suite le constat d'un apaisement. Merci.
Merci de votre question. Elle est très intéressante. Mais avant tout, je voudrais vous féliciter. Oui, je ne vous connais pas, mais je trouve que le travail avec des patients sourds, dont la langue maternelle est la langue des signes française, c'est un travail formidable que vous faites. Alors, venons à votre question, très importante pour tous les gens qui travaillent dans le cadre de la santé mentale, c'est-à-dire lorsqu'un thérapeute interprète un patient, c'est-à-dire intervient et lui dit quelque chose que le thérapeute considère que c'est une parole juste et que le patient à ce moment-là refuse ce qu'il lui dit, eh bien, il s'est trompé. C'est une erreur, d'accord ? C'est une intervention pas adéquate. Parfois, il peut arriver, comme vous l'avez très bien signalé aussi, que l'intervention, le contenu de l'intervention soit bon, mais qu'il soit dite à contre-temps, trop tôt ou trop tard. Ça aussi, c'est pas bon. Vous savez, la vérité, elle est toujours dite à temps. Vous pouvez avoir la vérité la plus extraordinaire, mais la dire trop tôt ou trop tard, elle n'est plus une vérité. Eh bien, je voudrais vous dire une chose importante. C'est que il faut savoir que l'intervention d'un psychanalyste ou d'un thérapeute, pour moi, c'est les psychanalystes, mais je pense que tout thérapeute qui parle et qui s'adresse à son patient pour lui dire une parole que le thérapeute pense qu'elle est positive. En fait, le thérapeute ne dit à son patient que ce que le patient sait déjà. Il n'y a pas de scoop. C'est toujours su par les patients. La seule chose qui arrive, c'est que le patient le savait déjà, mais il ne l'avait pas réalisé. C'est pour ça que je dis toujours que lorsque nous intervenons, nous nous adressons au préconscient, pas tout à fait à l'inconscient, au préconscient. Et quelquefois, lorsque l'intervention est bonne, eh bien le patient dira « Ah, c'est ça, c'est exactement ça ». La seule chose qu'il a fait, c'est de passer de son préconscient au conscient. La seule chose qu'a fait le thérapeute, c'était de mettre des mots à ce qu'il savait déjà, mais qu'il n'arrivait pas à le réaliser. Je remercie à tous pour vos questions. Et je remercie notre équipe, Audrey Ripouille à la réalisation et Clément Vuillet à la technique. La semaine prochaine, vous retrouverez Clotilde Leguil qui vous parlera du sentiment d'étrangeté entre rêve et réalité. Ce prochain épisode est déjà en ligne. Vous pouvez l'écouter en podcast et laissez vos questions sur notre page L'Inconscient sur franceinter.fr ou bien au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous avec plaisir le dimanche 21 mai pour vous parler des deux grandes figures de l'art, Diego Velázquez et Francis Bacon.